Voici un premier point sur l'information avec Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. De la bonne volonté, mais pas de réel signe de détente. C'est en quelques mots le bilan que l'on peut tirer de la rencontre hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Brégançon. Nous ferons le point sur les avancées discutées et notamment sur le dossier ukrainien.
Aux États-Unis, le financier Jeffrey Epstein a signé un testament deux jours avant de se suicider en prison. Il concerne plus de 500 millions de dollars d'actifs. Ses victimes soupçonnées demandent le gel de ses avoirs.
L'agence France Presse célèbre ses 75 ans aujourd'hui. Un anniversaire célébré dans un contexte difficile pour l'agence, que ce soit au niveau financier, mais aussi du point de vue de ses statuts. Une indépendance qui pourrait être remise en cause.
Et en pleine perséide, période de l'année où vous pouvez observer des pluies d'étoiles filantes, nous évoquerons la pollution lumineuse de nos ciels dans ce journal, et ce sont les lumières LED qui en sont en partie responsables, des LED qui causent également de nombreux troubles pour la santé.
Vladimir Poutine est arrivé bouquet de fleurs à la main hier à Brégançon, mais pas la fleur au fusil. Si la délicate attention visait Brigitte Macron, le président russe n'a pas montré de nombreux signes d'inflexion vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont affiché une apparente cordialité hier. Leurs discussions ont à nouveau exposé leurs différences sur de nombreux dossiers. Toutefois, Bertrand Galichet, Emmanuel Macron peut se satisfaire d'avoir obtenu une avancée sur la question ukrainienne.
De ces 2h30 d'entretien en tête-à-tête avec Vladimir Poutine dans le secret du fort de Brégançon, Emmanuel Macron ressort avec des perspectives sur la question ukrainienne. À moins de 5 jours du G7, le président français a obtenu de son homologue russe la promesse d'une avancée dans les négociations sur ce dossier qui inquiète tant les Occidentaux. Ce n'est qu'une ébauche, mais Emmanuel Macron arrivera le week-end prochain à Biarritz avec l'aura d'un interlocuteur privilégié du Kremlin. À défaut d'avoir obtenu des résultats sur la Syrie, l'Iran ou les libertés publiques en Russie, le président français pourra expliquer aux participants au G7 ce à quoi ils doivent s'attendre de la part de Vladimir Poutine, exclu de cette instance depuis 2014. Le président français apparaît désormais comme celui qui a pris à bras le corps la relation avec une Russie souvent inflexible, sans aucune garantie de résultat, sur un objectif ambitieux réaffirmé hier soir, arrimer à nouveau la Russie à l'Europe.
Les explications de Bertrand Galichet. Un G7 qui se prépare d'ailleurs sous haute surveillance en France. Plus de 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser ce sommet entre les 7 chefs d'État des grandes puissances mondiales. La ville de Biarritz, où se tient ce G7, sera particulièrement surveillée, tout comme l'une de ses voisines, Hendaye, qui voit le contre-sommet du G7 se tenir. Reportage à suivre à 8h sur le début de ce sommet des alternatives. 80 associations sont réunies sur place. Aux États-Unis, la presse se fait écho d'un testament signé par le financier Jeffrey Epstein, un document signé 2 jours seulement avant son suicide en prison. Au total, 577 millions de dollars de biens sont récapitulés dans ce papier enregistré aux îles Vierges britanniques. On ne sait que peu de choses du bénéficiaire de ce pactole, Grégory Phillips. On connaît simplement les grandes lignes du patrimoine du financier américain.
Son appartement de l'Upper East Side à Manhattan, estimé à 56 millions de dollars. Les 2 îles qu'il possédait dans les îles Vierges, 85 millions. Sa propriété parisienne avenue Foch, 8,6 millions. Une fortune à laquelle il faut ajouter un peu plus de 307 millions de dollars en actions et autres placements financiers. Le 8 août dernier, 2 jours avant sa mort, Jeffrey Epstein convoque 2 avocats dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York et il paraphe ce document de 21 pages. Dans son testament, Epstein confie tous ses biens à un trust, aucun bénéficiaire n'est nommé. Il y a uniquement les noms des 3 personnes chargées d'exécuter ce testament. À ce jour, le seul héritier possible est le frère du financier, Mark Epstein. Mais ce qu'il va advenir de ce demi-milliard de dollars intéresse évidemment la justice américaine, ainsi que les avocats des victimes présumées de l'homme d'affaires, qui déjà ont réclamé le gel de tous ses actifs, en vue un jour d'éventuelles réparations, car malgré le suicide de Jeffrey Epstein, l'enquête continue.
Précision de Grégory Phillips à Washington. Après 17 jours en mer, toujours aucune solution pour le navire de l'ONG Open Arms, bloqué aux portes de Lampedusa. L'Espagne dénonce l'acharnement de Matteo Salvini comme une honte pour l'Europe. Le ministre de l'Intérieur italien refuse en effet au bateau d'accoster. Le gouvernement espagnol propose une nouvelle solution dans les Baléares, une nouvelle fois refusée par l'ONG. ONG qui estime que le temps de trajet est trop long et les conditions météo trop difficiles. L'Italie qui s'apprête d'ailleurs à vivre une journée mouvementée en politique interne. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, est attendu devant le Sénat cet après-midi. Il pourrait démissionner, ce qui signifierait la fin de l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini. Un nouveau scandale animalier révélé par l'association L214. Une vidéo tournée entre mai et août 2019 montre plus de 8000 lapins au sein d'un élevage des Deux-Sèvres. L'association dénonce les densités extrêmes des lapins entassés dans des cages minuscules. Des lapins morts côtoient des lapins vivants. L214 qui rappelle que 30 millions de lapins sont tués chaque année en France, plus que les cochons et les bovins réunis. C'est aujourd'hui qu'est versée l'allocation de rentrée scolaire. 3 millions de familles en bénéficient pour les enfants de 6 à 18 ans. Une ARS qui oscille cette année entre 368 et 402 euros.
Elle a émis sa première dépêche le 20 août 1944. L'agence France-Presse fête aujourd'hui ses 75 ans.
Maxime. Elle prend à l'époque la suite de l'agence de l'information et de la documentation née sous la Résistance. Elle se nomme à l'origine Agence Française de Presse et sa première dépêche porte ce titre. Les premiers journaux libres vont paraître à la veille de l'entrée des troupes alliées dans Paris presque entièrement libérée. 75 ans plus tard, l'AFP fournit aujourd'hui la plupart des grands médias en information mais subit pourtant deux menaces. L'une économique, l'autre statutaire. Il faut dire que l'agence n'appartient ni à l'État ni à une entreprise privée. Cédric Armel, une indépendance importante pour les journalistes dès 1944.
Nous ne voulions ni de la gestion privée, ni de l'ingérence étatique. Basile Teslin jette les fondations de l'AFP. Le 20 août 1944, le résistant est l'un des 8 hommes à prendre d'assaut le bâtiment de l'Office français d'information, une institution vichiste. C'est le point de départ de l'agence France-Presse telle qu'on la connaît aujourd'hui, 75 ans plus tard. Ce statut est toujours la base de l'AFP, qui vit surtout de la vente des dépêches. Éric Cabanis, du bureau de Toulouse.
C'est un statut sui generis. C'est-à-dire unique dans la presse ou même dans le monde de l'entreprise en général. C'est un statut qui protège l'indépendance de l'agence France-Presse, l'indépendance des journalistes vis-à-vis de tout pouvoir politique ou économique.
Mais son statut est menacé depuis sa création, malgré la loi de 1957 qui la protège de toute ingérence. Benoît Fauché, délégué du syndicat national des journalistes au sein de l'AFP.
Cette farouche indépendance, cette belle indépendance de l'AFP, elle indispose un certain nombre de gouvernants qui aimeraient bien pouvoir avoir un accès un peu plus clair à ce que produit l'AFP pour pouvoir évidemment, ici ou là, influer sur le cours des choses et sur le contenu des dépêches, on va dire les choses assez clairement.
Autre point d'achoppement, les finances de l'agence sont dans le rouge avec 10 millions d'euros de pertes depuis 2014. L'AFP cherche de nouveaux revenus avec la vidéo depuis une quinzaine d'années et plus récemment le fact-checking, un service de vérification de l'information.
Le reportage de Cédric Hermel pour France Culture. On va maintenant braquer notre regard vers le ciel à 7h07, alors que le soleil tarde un peu à se lever ce matin. En ce 20 août, nous sommes toujours dans ce qu'on appelle les perséides. C'est la période de l'été où l'on peut voir des pluies d'étoiles filantes. Si vous vous installez en plein cœur de la nuit, vous pourrez en voir plusieurs dizaines par heure. Tout dépend encore du lieu de votre installation. N'y comptez pas trop dans les grandes villes qui sont touchées par ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Beaucoup trop d'éclairage public, de bâtiments allumés. L'Agence nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne qualifie même le ciel français comme étant de qualité médiocre et ce sont les lumières LED qui sont particulièrement responsables de cela. Des LED qui ont également des conséquences sur notre santé, Antoine Ferreira.
Ordinateur, téléphone portable, ampoule, phare de voiture ou éclairage public, les diodes électroluminescentes, ce qu'on appelle les LED, sont présentes partout. Leur utilisation s'est généralisée et elles sont même favorisées par le grand public et les collectivités car elles consomment moins d'énergie. Mais voilà, la lumière bleue qu'elles émettent serait responsable de nombreux troubles, parfois graves. C'est en tout cas ce que révèle le rapport de l'Agence nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qu'il s'agisse de troubles de la vision, du sommeil, de fatigue visuelle, même de la perturbation de l'horloge biologique, les effets phototoxiques de la lumière bleue émise par les LED ont été confirmés par l'Agence de sécurité sanitaire qui a mené une expertise scientifique. Les LED sont aussi plus puissantes en termes de luminosité, ce qui augmente la quantité de lumière globale, surtout quand elles sont utilisées pour éclairer les rues. Ces 20 dernières années, l'éclairage public a fait doubler la quantité de lumière, avec une hausse de 94%.
Les précisions d'Antoine Ferreira. On garde les yeux au ciel pour y observer le temps de ce lundi mercredi 20 août. Une France qui est coupée en deux par une diagonale sud-ouest-nord-est. Le soleil est au rendez-vous sur le nord du pays ainsi que sur la façade atlantique. De la pluie est toutefois attendue sur les reliefs pyrénéens. Au sud, dans la région PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes, les nuages vont aussi dominer. Là aussi, la pluie sera au rendez-vous. Côté température, il fait de 11 à 15 degrés en moyenne ce matin. Ce journal a été préparé par Julien Loquet et Antoine Paumet.